Je suis en compagnie d'Hugues Jalon. Nous parlons de Hélène ou le soulèvement, ton nouveau livre qui vient de paraître aux éditions Verticales. Au préalable, il y avait eu La conquête des cœurs et des esprits en 2015, Le début de quelque chose en 2011, Zone de combat en 2007 et ta première fiction, La base, qui était parue en 2004. Dans Hélène et le soulèvement, nous avons affaire à cette protagoniste, d'où le titre du livre, Hélène, et à son mari Loïc. Qui sont-ils?
Alors Hélène et Loïc forment un couple qui vit à Libourne, dans le sud de la France, et sont conduits à prendre l'avion pour Paris afin d'assister, d'être présents à une grande fête à laquelle est convié Loïc par un ancien camarade d'université, visiblement. Qui a fait fortune en étant avocat ou sans doute héritier d'une fortune. Enfin, ils se retrouvent tous les deux dans une grande fête parisienne dans le quartier des Batignolles, dans un monde qui n'est pas le leur.
Assez rapidement, on comprend qu'il s'est passé quelque chose cette nuit-là, à cette fête-là. Il y a souvent une redite. Ce qu'il t'est arrivé cette nuit-là, Hélène, peux-tu nous mettre un peu dans l'atmosphère de ce qui s'est passé dans la journée avant la soirée et cette soirée, quelle particularité elle avait, peut-être l'état de fatigue d'Hélène, par exemple?
Alors il s'est passé sans doute des choses assez banales. Ils ont fait les soldes, ils ont fait l'amour, ils sont installés à l'hôtel, ils sont sortis, ils ont visité sans doute une exposition ou un musée avant de rejoindre. Donc il y avait ce carton d'invitation un peu luxueux comme ça qui les conviait à cette grande partie où donc Hélène arrive fatiguée, croise des visages qui lui sont familiers, mais sans doute des animateurs télé, des gens qu'elle a vus, oui, qu'elle a vus dans les médias. Enfin, elle sent qu'elle n'est pas, enfin, assez vite que ce n'est pas leur monde, que ce n'est pas son monde. Et au bout d'un moment, tous les deux trouvent une petite pièce bleue à l'arrière de l'appartement. Et Loïc s'assoit sur un divan et Hélène s'endort sur ses genoux. Et c'est là que quelque chose va pouvoir commencer.
Donc, nous sommes dans une histoire, un moment qui pourrait paraître des plus banals, qui pourrait arriver à plein de personnes, et pas que à Hélène, pas que à son mari Loïc. Il y a ces deux premières phrases, tu commences par ces deux premières phrases. Elle apparaîtrait. Et si c'est possible, on ne verrait qu'elle. L'image serait la plus nette possible. Or, tous ces premiers moments dans ton livre, nous n'avons pas affaire à cette netteté. La netteté va arriver vraiment beaucoup plus tard. On est dans un espèce de flou et dans une forme de raconter, re-raconter, re-re-raconter ce court moment, ce passage de la journée et du moment du canapé où elle est allongée, la tête posée sur les genoux de son mari Loïc. Il y a une volonté de redite, comme si c'était un ressassement.
Oui, alors je m'adresse à elle, à certains égards, et je lui demande de raconter visiblement un souvenir qui reste très flou, quelque chose qui l'a profondément marqué au point d'en avoir perdu la mémoire, ce qui est une expérience que je fais assez souvent à titre personnel. Et donc première partie du texte va consister à demander à Hélène, qui va le faire, de raconter plusieurs fois la même séquence. Parfois, il y a des petits déplacements, des petits ajouts, donc petit à petit, comme si effectivement elle peignait un tableau et le recommençait sans cesse. Dans l'absolu, j'en avais écrit beaucoup plus de versions encore. J'étais assez. C'est quelque chose qui me plaisait assez, comme ça, ce travail de ratiocination, de réécriture, comme ça, incessant, de la même scène jusqu'à ce que puisse se dessiner. Quelque chose comme une image de plus en plus nette, de plus en plus précise.
Parce que nous assistons, nous lecteurs, à la fois à une certaine floue, un certain flou des énoncés, mais avec ce système de re-raconter, à une haute précision. Parce qu'au bout d'un moment, au bout d'une trentaine de pages, on commence à bien visualiser tout de même cette scène qui nous est re-racontée avec des éléments très très précis. Et ce qui nous ce qui provoque peut-être une sorte de malaise et cet effet à la fois de flou. Je vais te lire à un moment donné. Elle raconte que cette nuit-là, ce qui est arrivé quand elle s'est endormie sur ce divan, et tout ce qui est arrivé ensuite, aujourd'hui encore, elle a du mal à se souvenir à cause du champagne ou bien de l'après-midi du samedi avec Loïc sur les boulevards à entrer et sortir des magasins. C'était le début des seuls, ils étaient venus seulement pour le week-end. Juste là, en une longue phrase, on a plein d'éléments. On a cette chronologie qui fait des jeux. On peut imaginer les soldes sur les boulevards, bien entendu, sur le boulevard Haussmann. Et puis, cet élément flou de... ce qui est arrivé quand elle s'est endormie, ça on est dans le flou. Et tu joues, non pas avec nos nerfs, mais un petit peu aussi, on a envie d'en... C'est ça qui provoque l'excitation du lecteur, je pense, dans ton texte. C'est ces éléments de flou et ces éléments de précision. Tu disais que tu en avais écrit beaucoup plus, tu as fait tout un travail, j'imagine, de coupe.
Oui, j'ai fait un travail de coupe, de regroupement, pour essayer de construire... Plusieurs, j'ai oublié combien il y a 3, 4 ou 5 versions de finalement au fond du même récit, et en y ajoutant aussi un rêve qu'elle raconte, puisque comme elle s'endort sur ce divan, elle rêve, et c'est un rêve qui là encore revient chaque nuit depuis plusieurs semaines ou voire plusieurs mois, où il lui arrive quelque chose de particulier qui fait écho à ce qui va lui arriver au moment où elle va se réveiller.
Alors avançons dans l'histoire, en re-racontant comme ça, on s'aperçoit que Loïc, à un moment donné, commence à être un peu inquiet. Il dit « Allez, on s'en va maintenant, mais qu'est-ce que tu as Hélène? Pourquoi tu ne viens pas ?» On sent que là, il y a quelque chose qui le trouble, lui aussi. Bien entendu, on avait bien compris qu'elle était troublée. Peux-tu nous raconter ce qui va se passer après cette scène du canapé?
Oui, Hélène se réveille dans un état étrange et résiste effectivement au désir de Loïc de la ramener à l'hôtel parce qu'ils sont fatigués tous les deux. Il y a quelque chose qui se passe, une espèce de tension très forte qui fait qu'elle résiste à son aide, même puisqu'elle tient à peine debout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont descendre les escaliers de cet immeuble du 17e arrondissement, là, du quartier des Batignolles, vont rejoindre l'hôtel en taxi. Lui va s'endormir, elle va s'enfermer dans la salle de bain et va ressortir. Se rhabiller et ressortir, reprendre un taxi, retrouver comme elle peut l'adresse de cette rue, de cet immeuble, là où avait lieu la fête. Elle remonte les escaliers, retrouve, c'est toujours pareil, hein, c'est retrouver toujours, c'est reprendre indéfiniment, enfin, c'est toujours la même scène qui recommence, c'est-à-dire que, et retrouver la chambre et essayer de retrouver l'endroit où ce trouble est né, ce qui l'a mis dans cet état, elle n'a toujours pas compris. On ne sait pas trop, enfin je ne donne pas toutes les clés. Et là, un homme l'attend.
Un homme l'attend, et quand on commence à comprendre cela, il y a une arrivée soudaine. J'ai bêtement lu le livre du début à la fin, et sans vouloir le dévoiler antérieurement, j'avais bien compris qu'il y avait des photos, mais je ne me souvenais plus à quelle page. Et arrive à la page 62, et là... Il y a irruption d'une photographie. C'est Hélène, du moins c'est une femme, on imagine que c'est elle, qui est assise, enfin allongée, la tête posée sur les genoux de son mari. Page d'après, elle ouvre les yeux et elle nous regarde. Elle regarde en fait celui qui prend la photo. Et alors là, on comprend qu'il se passe quelque chose. Qui prend la photo? Qu'est-ce que vient faire cette photo-là? Non pas quel est son rôle, mais on sait après que c'est toi qui as pris les photos. Et là, ça jette à nouveau un autre trouble. Ce n'est pas un photographe à qui tu as demandé de faire les photos ou des photos que tu aurais trouvées. Ce sont tes propres photos. Et là, ça y est, on se dit, il se passe quelque chose de plus. Il y a un autre élément supplémentaire qui implique également l'auteur. Il y a un jeu fictionnel.
Oui, il y a quelqu'un qui prend une photo, manifestement sans doute avec un téléphone portable, qui l'a regardé dormir, qui l'a regardé ouvrir les yeux, qui a croisé son regard. Est-ce qu'elle s'est rendue compte de ce qui se passait, qui l'a vu partir avec Loïc et qui va l'attendre jusqu'à ce qu'elle revienne et qu'ils puissent partir ensemble. Voilà, puis ça, ce sera la suite du livre. Après, c'était un choix fort de faire appel à la photographie, c'était la première fois que je le faisais, parce que la photo est très, est un outil puissant, enfin, c'est quelque chose qui est par rapport au texte, quelque chose de très énorme, qu'on voit tout de suite, c'est, ça saute aux yeux, quelque chose comme ça. Et on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais pour moi, j'avais envie de faire quelque chose à partir de ce genre un peu méprisé du roman photo qui apparaît un peu plus loin. Et donc ça, ce sont les premiers moments pour acclimater le lecteur à l'idée que Hélène a un visage. Ce qui est quand même une démarche un peu particulière pour un écrivain de fiction qui a l'habitude d'écrire les visages avec des mots, d'incarner avec des mots ses personnages ou son personnage, et là de le faire advenir comme dans une matérialité photographique. Ça fait partir le texte ailleurs.
Ça fait complètement partir le texte ailleurs. Et là, on se souvient de ces deux premières phrases de ton livre. Elle apparaîtrait, et si c'est possible, on ne verrait qu'elle. L'image serait la plus nette possible. Oui, effectivement, page 62, elle est là, elle apparaît, elle est nette, cette image, et elle est là. Et là, on a envie de relire tout ce qui s'est passé, parce que soudain, nous avons Hélène sous les yeux.
Oui, elle apparaîtrait et on ne verrait qu'elle. C'est-à-dire que j'ai beaucoup réfléchi à ça aussi en lisant dans la tradition des grands romans d'amour, que ce soit Anna Karenine, L'éducation sentimentale, etc. À quel point, au fond, ces grands romans qui sont estampillés romans d'amour, au fond, accordent une place relativement ténue à la relation amoureuse et aux amants eux-mêmes. C'est-à-dire que ça m'a fait penser à cette expérience qu'avaient mené deux artistes contemporains autour de Zidane. C'est-à-dire que L'éducation sentimentale, c'est un match de foot. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, il y a les stades, il y a plein de choses, il y a des familles, il y a de l'argent, il y a de la politique, il y a plein d'histoires dans L'éducation sentimentale d'Anna Karenine de la même manière. Dans Madame Bovary également. Ce qu'avaient fait Gordon et Parreno, je crois, c'était de filmer Zidane et de ne filmer que Zidane, d'oublier le match. C'est-à-dire, en fait, je me suis rendu compte que finalement, au fond, il y avait assez peu de romans d'amour qui s'en tenaient à la question amoureuse. Et qu'à chaque fois, quand on raconte une histoire d'amour, ce qui était quand même ce que j'avais envie de faire, et bien au fond, ça part ailleurs. Ça part ailleurs, ça part dans la politique, ça part dans l'argent, ça part dans la famille, ça part dans tout ce dans quoi l'amour est, en certains égards, encapsulé, et qui rend très très difficile, au fond, la possibilité de s'en tenir au récit de la relation de deux amants. Et c'est pour ça que je ne voulais pas lâcher Hélène. J'aurais pu parler de plein d'autres choses, de cette fête. J'ai toujours évidemment la tentation de que le décor prenne beaucoup de place, mais je voulais le plus que je pouvais m'en tenir à Hélène. C'est aussi pour ça que je répète. C'est aussi pour ça que je reprends sans cesse, parce que je veux rester sur Hélène.
Rester sur Hélène, être concentré sur Hélène, au point d'en mettre des images, et au point d'en faire presque un roman photo. Ça m'a fait penser au vieux magazine, je ne sais pas si tu connais Nous Deux, par exemple. Ma maman avait ça, et c'était vraiment... quand j'ai retrouvé cela, en fait. Parce que, après, les photos sont légendées. Il y a une série sur une page, la page 71, où c'est une série de trois photos. Elle est en voiture, sur le siège passager, et c'est sous-titré. « Tu es là, où vas-tu ? Ne me laisse pas seule trop longtemps. » C'est elle qui parle. Et là, on est dans... presque la romance, et ça accompagne le texte qui ratiocine toujours, mais avec un roman photo qui pourrait presque penser... Enfin, on est dans un roman photo très, 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 très populaire, quoi, qui s'adresse à un public féminin, et ça nous jette encore à nouveau un trouble encore plus puissant.
Oui, c'est-à-dire qu'à un moment... Le roman photo, ça me plaisait, je connaissais cette tradition, je connais ce registre, je connaissais cette... C'est une langue, et au fond, c'est la langue de l'amour. C'est-à-dire qu'il se consacre exclusivement à raconter l'amour. C'est la forme, finalement, qu'on a trouvée de manière extrêmement populaire, massive, pour raconter des histoires d'amour. J'avais envie, d'emprunter ce langage-là. C'est-à-dire qu'à un certain moment, de sortir de la littérature. Et quand même, c'est quand même un peu ça, de faire du roman photo, de vouloir... Il y a même un moment dans ma folie... un peu prométhéenne, j'avais eu envie de tout refaire en roman photo. Ce que je n'aurais pas pu faire pour des raisons de moyens, c'est très compliqué, ça coûte très cher, etc. Donc j'ai fait ma séquence de roman photo. Et c'était une manière d'envoyer le récit ailleurs, d'envoyer cette histoire ailleurs, et de la... Comment dire, et de... Non pas jouer avec le roman photo, parce qu'il n'y a pas d'ironie, avec l'idée d'essayer d'en prendre le langage, dans sa simplicité, sa naïveté, son côté presque cucu, que moi j'assume. Sur certaines planches, il y a des gens qui m'ont dit oui, cette planche-là, je la trouve un peu cucu, mais moi je l'assume, j'assume ce côté cucu de l'histoire d'amour.
Oui, parce que tu réussis presque à, malgré la netteté des photos, à juste à poser dessus un texte qui est assez flou. Par exemple, celle-ci, tes yeux, regarde-moi, plus rien ne pourra nous arriver. C'est flou. Et la photo est nette. Et ce surtexte que tu rajoutes aux photos me conduit vraiment à penser cette centralité d'Hélène et en même temps ce flou. Et puis, une nouvelle notion qu'on n'a pas encore abordée, qui serait la chronologie. Il y a un jeu sur la chronologie, passé, présent, futur. Plus on avance dans le texte, plus elle envisage aussi le futur avec l'amant avec qui elle est partie. C'est une fuite, Hélène, et le soulèvement, c'est sa fuite. Elle a fui Loïc comme ça sur un coup de tête et elle part avec cet amour irrépressible, cet amour souverain, qui est un soulèvement de l'émotion amoureuse. Et cette émotion amoureuse, ce sentiment amoureux qui est le cœur de Hélène ou le soulèvement, nous conduit à une achronologie. Il n'y a pas de date. On se doute qu'on est à peu près dans les années d'une crise financière, donc on peut un peu situer voilà, crise financière de la Grèce, les banquiers suisses, ce sont des petits éléments évanescents, mais sans plus, elle-même est complètement troublée par les dates. Ça s'est passé avant, ça c'est ce qui se passe à peu près pendant, ça c'est ce qui va se passer après, plus ou moins. On est dans un grand élément de flou, comme si ce sentiment amoureux était tellement souverain et irrépressible qu'il floute lui aussi la chronologie.
Oui, puis tu as dit peut-être le mot qui est peut-être déterminant et qui aurait pu aussi être à la place du soulèvement, le mot clé du livre, c'est le mot souverain. C'est-à-dire que c'est dans ce brouillage du temps dans lequel s'inscrit cette histoire, cette fuite, à travers cette fuite, c'est aussi le récit d'une souveraineté. En fait, j'ai compris quelque chose, parce que ce mot souveraineté, on entend partout dans les journaux, c'est le mot politique clé sur l'Europe, la Grèce, perdre sa souveraineté, etc. Mais les amants sont ceux qui sont souverains. Pour moi, c'est ça, la souveraineté. C'est cette espèce de capacité, dans ce geste de Hélène et de son amant de fuir, de construire son monde, de faire exister son monde, de faire advenir un monde hors du temps. Et c'est peut-être l'expression la plus pure de ce mot dont on perd un peu le sens, qui est le mot souveraineté. Ça aurait pu appeler Hélène ou la souveraineté. Ça aurait pu s'appeler comme ça.
Soulèvement est déjà aussi un terme assez proche. Ça pourrait être soulèvement révolutionnaire. Et ce sentiment-là, qui, lorsqu'on fait l'expérience, on comprend bien que c'est quelque chose qui nous omnubile tellement que c'est notre propre révolution intérieure. Et notre soulèvement au même qu'une révolution, et qui a un effet sur ce concept de souveraineté, et là qui serait personnel. Il y a ce moment, page 77, ces deux photos qui me troublent juxtaposées l'une sur l'autre. Avec ce texte, mes souvenirs, je vois bien, et là, la photo, on ne voit que les cheveux d'Hélène. La photo du bas, elle il y a sa main gauche qui soulève légèrement ses cheveux comme un grand, grand tourment, comme quelqu'un qui s'arracherait un peu les cheveux, parce qu'elle dit « il s'enfuit ». Ça fait mes souvenirs, je vois bien, il s'enfuit. Et on n'a pas plus de précision sur cette femme qui abandonne mari et enfant. Et on imagine que c'est terrible, mais cela se produit. C'est-à-dire c'est l'amour qui peut seul produire cet effet de quitter mari, enfant, de cette manière-là. Et mes souvenirs, je vois bien, ils s'enfuient. On imagine bien psychologiquement quelle horrible et horreur dans sa tête il doit se passer, quel trouble aussi puissant. Et cela est évacué dans le texte au profit uniquement de elle, Hélène, sa constante avec son amant, à essayer de le capter, à essayer de saisir uniquement le sentiment amoureux et en évacuant tout son passé.
Oui, c'est ça, puisque ensuite, on passe au journal d'Hélène, où elle va raconter au présent, sous la forme de notation, leur vie à deux, dans cette espèce de, comment dire, d'espace-temps parallèle, puisque ils se retrouvent à Athènes, mais elle devine à peine que c'est Athènes, et au fond, c'est pas tellement... Elle ne cherche pas à savoir au-delà, elle est simplement, voilà, elle ne comprend pas la langue, elle s'installe dans un appartement, lui paye en liquide le loyer, mois après mois, il paye tout en liquide, elle n'a pas l'air de trouver ça étrange. Donc comme ça, elle vit finalement le quotidien amoureux dans un monde qui lui devient étranger, au fond. Et lui va partir, faire des allers-retours, il part en voyage d'affaires. C'est pas très bien ce qu'il fait. Elle cherche pas à savoir. Elle cherche pas à savoir son prénom. Et c'est en ce sens-là que j'aimais assez cette idée qu'ils puissent finalement inventer leur monde à deux, sans se préoccuper du monde qu'ils avaient quitté.
C'est exactement cela. Ils ne se racontent pas d'histoire. Ils ne se racontent pas leur histoire du passé. Leur passé est complètement absent. Ils sont dans une sorte de pure temporalité du présent, et elle, dans son journal, on sent bien que lui est souvent parti, qu'elle est souvent en attente, et c'est le présent qui revient sans cesse de l'attente, et on les voit finalement assez peu ensemble tous les deux, peut-être même ne les voyons-nous jamais ensemble, et dans les photos non plus, on ne voit qu'Hélène, bien entendu, prise par cet amant.
Oui, elle est prise par son désir, prise par son attente. C'est vrai que je l'ai. Il y a quelques scènes, on va dire, d'amour physique, mais assez peu dessinées. Moi, voilà, il y avait quelque chose de les laisser aussi à eux-mêmes, quoi. Enfin, d'essayer de rester fidèle à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de rester sur elle, de ne voir qu'elle. Et donc, effectivement, d'essayer de décrire cet état d'attente, cet état de désir, cet état aussi un peu de déréliction. Il y a un peu quelque chose comme ça qui commence déjà à s'installer aussi dans le journal, parce que c'est une position à certains égards intenable. Il y a quelque chose d'intenable aussi dans leur geste et dans leur, pour dire les choses de manière un peu vulgaire, leur absence de projet commun. Il n'y a pas de projet commun. Ça se, effectivement, construit dans l'acte du soulèvement, de cette espèce d'acte comme ça de souveraineté amoureuse, mais dont le lecteur se rend bien compte qu'il a peut-être vocation très vite à s'effriter ou à être menacé ou à ne pas durer ou à durer dans des conditions qui vont être extrêmement compliquées ou précaires.
Est-ce que ça va même très très loin pour elle, je te cite. Elle dit « Cela faisait des mois que je ne portais plus de montre, que mon téléphone était resté éteint au fond d'un tiroir de la chambre. » On peut imaginer à quel point c'est puissant. Elle avait des enfants et un mari. Et là, on se dit « Mais c'est juste ça va être insupportable psychologiquement. » Et tu en délivres la clé. Elle dit « Le monde s'est retiré. Je n'ai plus besoin de moi. » Elle n'a même plus besoin d'elle. Elle n'est plus elle-même, mais parce qu'on n'est jamais soi-même, elle se retire du monde et elle n'a plus besoin de moi. Ça, on est dans la puissance même de l'acte du sentiment amoureux. C'est sempiternel dans ton livre d'être dans cette espèce d'exactitude de comment raconter une révolution intérieure amoureuse. Et alors, je me posais cette question, bien entendu, qui vient du statut des photos, photos que tu as prises, toi, d'une femme. Et je me disais que toi, écrivant, toi prenant en photo cette femme, soit c'est une actrice, soit c'est une amie, soit c'est une amoureuse, peu importe, je ne cherche pas à savoir. Mais j'imagine que tu as voulu aussi entrer dans une sorte de fiction personnelle, de jeu intérieure, et que peut-être on pourrait lire aussi Hélène et le soulèvement comme une volonté de se faire fiction à soi-même à partir de ce sentiment. En tant que lecteur, je me suis imaginé ton statut, Hugues, écrivant ce livre-là, et me disant, Est-ce que moi, j'aimerais bien écrire aussi, je rencontre une femme et j'écris une histoire inventée. Ce n'est pas ce qui s'est passé pour nous deux, ce n'est pas ce que nous vivons, mais on va s'inventer une fiction et je te prends en photo et je te mets dans ma fiction. C'est-à-dire comment faire, en tant qu'écrivain, vivre quelque part, pas par procuration, mais par fiction, vivre une histoire que je vais inventer, que je vais écrire. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé, mais on peut l'imaginer que tu as pu en avoir la tentation.
Oui, on vit par procufiction, c'est ça, des événements. Alors, je me suis beaucoup ensuite interrogé sur le pourquoi du comment de ce texte et ce qui était venu le nourrir ou le... C'est un peu compliqué encore pour moi d'en parler, mais disons qu'il y a eu plusieurs sources. Comme une sorte de concaténation d'expériences sensibles, d'expériences amoureuses, d'histoires qu'on a pu me raconter, d'histoires qui étaient arrivées à quelqu'un, quelque chose qui m'est arrivé. Et ça dessinait un schéma, quelque chose comme ça, un schéma qui était effectivement un schéma fictionnel, puisqu'en tant que tel, ce n'est pas un texte autobiographique inversé ou même dans le bon sens, c'est-à-dire que je ne suis pas à proprement parler l'amant, je ne suis pas à proprement parler Hélène, mais en même temps j'ai occupé ces deux positions, où j'ai connu des gens qui l'avaient occupé. Et ça reste un peu une énigme pour moi, cette affaire. Mais il y a un pattern, il y a des patterns. Le pattern de la fuite, le pattern de l'enlèvement. Il y a quelque chose comme ça qui est une manière de me mettre en fiction, de mettre en fiction des pulsions, ce qui est proprement a priori impossible à mettre en récit, à expliciter, puisqu'on est dans l'ordre justement de quelque chose de l'ineffable. C'est peut-être un peu ça que j'ai essayé de faire.
Parce que je le lis. Hélène ou le soulèvement, avec tes précédents textes. J'ai beaucoup pensé à Zone de combat, notamment. Zone de combat, c'était dans ce livre-là. Tu essayais de donner un nous. C'était un livre, une sorte de fiction du nous, avec plusieurs couples. Il y avait eu des attentats, il s'était passé quelque chose de terrible, enfin un traumatisme, en fait, qu'il fallait conjurer. Et conjurer avec un nous. Nous, il nous est arrivé quelque chose et on va essayer de s'en sortir malgré un événement terrible qu'on pourrait imaginer, un attentat. Bon, c'est écrit en 2007, hein, donc voilà, précisons, il n'y avait pas eu encore les attentats en France, hein, c'était bien antérieur. Mais il y avait un élément comme ça de cette volonté d'écrire avec le nous. Dans La conquête des cœurs et des esprits auxquels j'ai beaucoup pensé aussi, qui était paru en 2015, il y avait comment, avec des personnages très connus aux États-Unis, ça pouvait être Neil Armstrong, ça pouvait être Ayn Rand, par exemple, ça pouvait être Ron Hubbard, donc toute une mythologie américaine, comment non pas faire biographie avec eux, non pas prendre des petits éléments de leur vie, mais comment, par une espèce de flou comme ça, les intégrer dans une fiction américaine, dans un imaginaire américain. Et alors, je comprends très très bien et beaucoup mieux cet ensemble avec Hélène ou le soulèvement où tu cherches à caractériser des émotions, des situations, un imaginaire. Et là, ça pourrait être proprement l'imaginaire amoureux. Et qu'est-ce qui fait nos vies ? Nos vies amoureuses sont quelque chose de tellement puissant que c'est ça aussi qui nous constitue. Enfin, quand on est en train de mourir à la fin, je pense qu'on est en train de repenser à ces anciennes histoires d'amour parce que c'est quelque chose qui nous transporte tellement que c'est nos vies. Et que tu cherches à caractériser, que tu cherches à écrire, à mettre en texte des choses qui sont floues, qui sont évanescente et qu'on n'arrive pas à bien caractériser aussi facilement. Enfin, ce sentiment amoureux, on pourrait dire, bah oui, mais c'est toute l'œuvre de Proust, effectivement. Bah oui. Mais comment le caractériser avec, non pas avec une œuvre aussi gigantesque et qu'on n'arrive pas forcément à appréhender dans toute son ampleur, mais avec un texte court, tu fabriques des textes courts d'une centaine de pages qui se lisent en 2 heures, c'est-à-dire qu'en 2 heures, on plonge soudain comme ça dans des éléments textuels et qui ne sont pas si, si simple que ça. Et donc, avec ce cinquième livre, je ne sais pas si on peut appeler ça roman, en tout cas ce cinquième texte fictionnel, on commence à voir que tu essayes, par petite touche, de caractériser quelque chose.
Oui, je pense que des thèmes commencent à revenir que je voyais, j'apercevais pas forcément de manière très claire. Je comprends pas très bien pourquoi, mais en tout cas, ils sont là. C'est la fuite. Ça, c'est dans la base, dans zone de combat, dans le début de quelque chose. Même dans certains des personnages de la conquête des cœurs et des esprits. C'est-à-dire que ça fuit. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de vouloir fuir le monde tel qu'il est. C'est un peu banal comme ça, de dire les choses comme ça, mais en tout cas, ça revient. Mais de ne pas simplement fuir, c'est de peut-être que à travers la fuite, mais ça c'était valable aussi pour la base qui racontait l'histoire d'un gars là comme ça qui prenait possession d'une plateforme au large dans l'estuaire de la Tamise et qu'il transformait en un état souverain. On retrouvait cette espèce de thème de la souveraineté, l'idée que dans la fuite on construit, on élabore, on construit un nous quoi. Enfin, on essaye de construire un nous, on passe son temps à essayer de faire ça. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que le thème de l'évasion fiscale, la Grèce, etc. est présent dans le livre, c'est que ça ne tient pas. Ça ne tient pas, c'est-à-dire que le capitalisme, pour dire les choses comme ça, ou l'économie de marché, construit un monde qui prend haut de toutes parts, où tout s'enfuit tout le temps, c'est son principe de fonctionnement même. C'est-à-dire que on essaie d'échapper à l'impôt, l'argent fuit... Ça fuit par tous les trous. Et comment on peut vivre là-dedans? Comment à un moment on peut se ressaisir? Et à partir de là, effectivement, la passion amoureuse apparaît comme une sorte de... en miroir, ou en opposition, comme une sorte d'acte politique involontaire face à ce monde qui passe son temps à s'effondrer ou à se vider de lui-même. Donc essayer de faire tenir quelque chose. Quelque chose, ce à quoi on tient, ce qui tient, je sais pas très bien comment le formuler, mais d'essayer d'arriver à faire exister un monde qui peut tenir un peu. Voilà, c'est peut-être qu'il y a peut-être quelque chose comme ça qui essaie de se. Que j'essaie de thématiser de livre en livre. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension de pas documenter le désastre, ce que beaucoup de romanciers font, hein, documenter l'état du réel, ils sont. La situation d'un monde qui devient invivable, mais d'essayer de montrer que il y a aussi des tentatives pour faire exister d'autres mondes, pas forcément sous la forme d'utopie politique, de communauté, etc., mais même dans des, finalement, au fond, dans ce qui nous arrive quotidiennement, il n'y a rien de plus quotidien et de banal, comme tu le disais, que l'histoire d'amour, mais qui, au fond, qui peut avoir, aussi romanesque soit-elle, ou aussi peu romanesque soit-elle, une dimension politique profonde. Dimension de résistance au temps, de résistance au présent, de résistance à l'avenir, de résistance au projet, de résistance à ce qu'on nous promet ou à ce qu'on se promet. Et là, il y a quelque chose qui reste profondément, oui, subversif là-dedans, quelque chose de cet ordre-là.
Merci beaucoup, Hugues Jalin.